Aujourd'hui, on assiste à une espèce d'exigence, d'appel à la responsabilité qui vient de toutes parts, qui est très, 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 très contraignante, et en même temps, une indécision, beaucoup d'incertitudes sur ce que signifie être responsable à partir du moment où on fait de cette exigence ce que je crois elle est, c'est-à-dire, pour une entreprise, un principe de subjectivation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement, dans l'hypothèse qui est la mienne, il ne s'agit pas simplement de se mouler dans les catégories de ce qu'on appelle entreprise responsable. Il y a toute une panoplie qui est offerte dans laquelle on peut se mettre sans avoir à vraiment beaucoup réfléchir sur ce que signifie ou sur ce qu'on entend soi-même par être responsable. Parce que la responsabilité vous confronte à l'incertitude. Et donc, ce n'est pas très facile d'y répondre. Alors, parmi mes défauts ou mes qualités, il y a aussi d'avoir été l'assistant de Michel Foucault. Alors, je vais vous faire un numéro de petit foucaldien. C'est-à-dire, j'utilise, parce que quand vous vous occupez de lancer un projet comme celui-là, vous imaginez que ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup de temps d'organisation, qui sont beaucoup de temps où vous n'avez pas le temps de réfléchir. Alors, merci à Blanche et à Armand de m'avoir invité, parce que comme ça, ça me donne la possibilité d'essayer de mettre quelques idées en ordre. Bien. Alors, pourquoi vous remarquerez que dans ce manifeste, il y a trois questions qui sont posées. La première, c'est celle du pouvoir. Et il est clairement formulé que les choses qui ont déjà été discutées, abordées, c'est que le problème, c'est l'exercice du pouvoir par des entreprises qui, comment dire, comme on aurait dit dans certaines époques, ont un surpouvoir, en particulier par rapport aux États. Donc le problème du pouvoir, de son exercice. Il y a une deuxième question qui est le problème de l'État et quelque chose qui est un vrai problème, qui est l'absence de l'État d'une certaine manière pour définir les compromis sociaux. Et troisièmement, il y a un problème de valeur. Je borderai cette question à la fin de l'exposé. Mais, au petit foucaldien, je vais mettre en scène ce moment de la responsabilité, donc dans lequel nous sommes, dans lequel ce colloque nous place. Je vais mettre en scène ce moment d'un point de vue un peu historique, mais selon un récit qui ne sera pas celui d'Armand. Car comme je le disais hier, je suis perplexe par rapport à l'idée de l'effacement de l'entreprise et de son espèce d'irruption triomphante, auquel est à la fois triomphante et catastrophique, puisque comme son exposé se terminait par Hans Jonas, il ne faut pas l'oublier, a écrit le principe de responsabilité en opposition à un de ses collègues, qui est Ernst Bloch, qui avait écrit et qui venait de RDA, et qui était passé en Allemagne de l'Ouest et qui s'est manifesté par des traités sur le principe espérance. Je connais bien, évidemment, le principe de responsabilité, mais j'ai toujours été un peu gêné par l'éloge de la RDA sur lequel cet ouvrage se termine. Enfin, l'idée de s'adresser à son collègue venant de la RDA en opposant la responsabilité à l'espérance, tout ça pour faire l'éloge de la RDA, me pose quelques questions. Bien. Alors, quel est mon récit? Je trouve que le triangle responsabilité, entreprise, civilisation est fort bien choisi. En réalité, c'est une configuration. Je dirais que c'est une configuration, que cette configuration, elle n'est pas à un moment particulier, je dirais que c'est une configuration comme configuration constante. En tout cas, pour le domaine historique que je connais, un tout petit peu, c'est-à-dire celui de l'Europe. Mais cette configuration entre entreprise, responsabilité, civilisation, pour être constant, ne cesse de se transformer. Et précisément, je penserai le moment présent comme un moment de la transformation de cette configuration, de ce triangle. Alors, si on prend le Moyen-Âge, le débat sur le statut du banquier, le débat sur le bourgeois, c'est-à-dire celui qui vit dans les villes, qui exerce certaines activités marchandes par rapport aux nobles, sont déjà, me semble-t-il, des problématisations, alors sans doute ce n'est pas l'entreprise au sens actuel, mais d'activités économiques dans leur dimension civilisationnelle et les responsabilités qu'elles impliquent. Il y a un très beau livre que vous connaissez certainement d'un Italien qui s'appelle Todeschini, qui a fait un livre sur les franciscains et sur la doctrine franciscaine du risque au XIIe siècle, qui est absolument remarquable, dans lequel il explique, dans lequel il montre comment, précisément, quelle était la responsabilité des preneurs de risques et qui les finançaient au Moyen-Âge. Mais de manière plus récente, il est clair que si on se souvient de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il est clair que la notion de Beruf, on voit bien qu'on réfléchit déjà entre l'activité économique, l'activité d'entreprise et sa contribution à la fabrication d'un type d'homme. Alors c'est très intéressant d'ailleurs la notion de Beruf, puisque cette configuration est en même temps séculière et religieuse. Bien, alors moi je voudrais ici, au galop, vous proposer, depuis la Révolution, quelques configurations. Vous dire, pour moi, on pourrait peut-être dire que depuis la Révolution française, il y aurait 5 ou 6 configurations distinctes des relations entre responsabilité, entreprise et civilisation. Alors, je pense que la première, c'est celle qui est instituée par au moment de la Révolution française. Comme vous savez, la Révolution, de notre point de vue, est le moment où apparaît la notion, enfin pas la notion, mais apparaît le terme de responsabilité, et où, plus exactement, la question de la responsabilité est choisie comme la catégorie politique principale. La bonne société, telle que la Révolution l'institue, c'est une société d'individus responsables. Qu'est-ce que c'est qu'un individu responsable? C'est quelqu'un qui ne reporte pas sur autrui la charge de ce qui lui arrive. Et c'est considéré jusqu'à peut-être Jean-Paul Sartre, compris. C'est considéré comme un principe fondamental des sociétés. On ne doit pas reporter sur un autre la charge de ce qui vous arrive. La conséquence de ceci, c'est qu'il y a un deuxième sens de la notion de responsabilité, qui est une notion éthique. On doit se conduire et se construire d'une manière telle qu'on ne soit jamais placé dans la situation d'avoir à demander secours. Fondamental. Je dois me construire de telle manière que je n'aurai jamais à me mettre sous la dépendance d'un autre en lui demandant secours, car derrière cela, l'enjeu fondamental est l'égalité. L'égalité est permise par la responsabilité. L'égalité et le droit, le fameux droit des articles 1382 et suivants du Code civil, vient sanctionner cette idée qu'on ne pourra être dédommagé que si on fait la preuve de la faute d'un autre, ce qui est l'exception, car en principe, ce qui vous arrive vous revient. Dans cet univers-là, où la responsabilité est absolument fondamentale. C'est une catégorie politique, c'est une catégorie éthique, c'est une catégorie juridique, c'est une catégorie financière, la prévoyance, c'est une catégorie économique aussi, absolument fondamentale. Bien. Dans cette conjoncture, on va s'interroger sur... c'est une conjoncture, évidemment, où on ne va pas, où on ne socialise pas, on n'a pas tendance à socialiser. Au contraire, c'est plutôt une logique donc de privatisation, comme par exemple, on pourra le voir, dans le problème dont Armand indiquait tout à l'heure, sur le problème des mines, sur le problème de la concession, la durée de la concession, précisément, on va faire que cette propriété qui est précaire, puisque les mines restent la propriété de la nation, doit avoir une durée suffisamment longue pour que le propriétaire ait un intérêt à bien l'exploiter. Et si la concession était trop courte, évidemment, il la saboterait. Voilà. Donc, dans cette perspective-là, on voit bien aussi que cette logique est en même temps une logique sociale ou même une logique politique, car il s'agit, à travers cette économie, il s'agit d'être fort nationalement et en particulier par rapport à l'Angleterre. Le problème, c'est que le résultat, quand les révolutionnaires ne pensent pas à la grande industrie, enfin, sauf des gens comme Chaptal, il faudrait en parler, mais on pense la petite propriété, on pense l'artisan. C'est précisément ce type d'activité qui est le rêve, qui donnera l'accès à la propriété, cette propriété qui vous libère de tous les soucis. Mais en le... Bon, je vais très vite. Hein, le problème, c'est que ce grand modèle... Il faut bien se rendre compte de ce modèle. Ce modèle est un modèle, c'est une utopie, c'est cette utopie d'une société d'ego. Une société d'ego est possible si l'égalité, si la responsabilité est le fait de tous et de chacun. Le problème, c'est quand dans les années 1830-1840, l'observation fait apparaître que ce projet est une faillite. Ça s'appelle le paupérisme. En réalité, ce que ce modèle produit, c'est quelque chose qui est très comparable aux descriptions auxquelles on assiste aujourd'hui, par exemple, sur Angus Deaton, sur la situation du travailleur blanc américain dans les zones, dans la belt, Rust Belt, et d'espèces de délabrement, les opiacés, etc., des types inutilisables, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour l'armée, ce qui, à l'époque, avait une certaine importance. Et qu'est-ce qui se... Pour moi, ce moment du paupérisme est un moment essentiel, parce qu'il ne va pas aboutir à la disparition du projet de la responsabilité, mais à sa transformation. Et donc, c'est ma deuxième configuration. Je l'ai esquissée. Et cette configuration, pour moi, est complètement bouleversante. Car la configuration, c'est dans cette nouvelle configuration, elle est portée par les chefs des grandes entreprises textiles, minières, sidérurgiques et les chemins de fer. Et qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, la responsabilité, c'est le fait de certains et pas de tous. La responsabilité n'est pas un principe d'égalité, c'est un principe de distinction. La responsabilité distingue. Il y en a qui sont responsables et il y en a qui ne le sont pas. Et ceux-là, on doit les prendre en charge. Et donc, ce que va imposer la grande industrie, à travers le paternalisme, c'est un schéma de l'asymétrie. C'est un schéma de la distinction des responsabilités. Il y a le chef d'entreprise, enfin Monsieur Schneider, il y a Monsieur de Vindel, il a la responsabilité, et puis les autres, ils sont à son service. Et vous savez qu'à ce moment-là, on re-sollicite toute l'économie du service du Moyen-Âge, de la noblesse, pour penser tout ça. Et on va dire, la relation de travail ne peut pas être pensée comme un contrat. Le contrat nous emmerde. Le droit nous emmerde. D'ailleurs, c'est ce qui va détruire ce même projet. Et donc là, on a une société donc, qui va se construire sur la base de la hiérarchie. Donc c'est la fin du rêve révolutionnaire, d'une certaine manière, sur la base de la hiérarchie. Et on va accepter, donc on va créer ces espèces. Alors là, pour vous, pour toutes ces questions de territoire, donc il va y avoir des zones, des territoires qui vont être occupés. Mais c'est un projet politique en même temps, car on va demander aux chefs d'entreprise, sur le territoire qu'il organise, donc il l'organise non seulement par son usine, mais il l'organise par ses logements, il l'organise par ses systèmes de santé, il l'organise par l'éducation, etc., eh bien, on va lui demander de maintenir l'ordre. Et sa protection est liée à sa capacité à maintenir l'ordre. D'ailleurs, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de séparation entre le monde public et le monde de l'entreprise, puisqu'il est très fréquent que le directeur d'une très grande entreprise soit en même temps député, etc. Bien. Donc là, on a une autre configuration de responsabilité entreprise. Et là, je pense que l'entreprise est vraiment pensée en tant que telle, avec plein de problèmes qui correspondent, qui seraient peut-être intéressants d'étudier par rapport aux sujets qui ont été abordés tout à l'heure. C'est par exemple, quel est le statut de l'institution patronale? Le logement, c'est quoi? C'est le territoire de l'usine? Ou c'est quelque chose qui est à part de l'usine? Est-ce que la caisse de secours, c'est quoi? C'est dans l'usine ou c'est hors de l'usine? Je vous signale, vous le savez, que les syndicats sont nés de cette question-là. Les syndicats sont nés dans les mines de la Loire du problème de savoir à qui appartenaient les caisses de secours. Donc les ouvriers disant « mais c'est notre salaire, c'est une partie de notre salaire » et le patronat répondant « c'est une gratification sur laquelle vous n'avez aucun droit ». Voilà. Bien. Donc là, on a un deuxième schéma d'articulation. Il faudrait évidemment rentrer dans plus de détails parce qu'à chaque fois, on a une vision de la responsabilité, je l'ai montré. On a une vision de ce qui fait la civilisation, le type d'homme qu'on va chercher à construire dans une cité ouvrière. Il y a tout un travail moral, il y a tout un travail d'éducation, il y a une éducation populaire qui est faite, et tout ça donc avec l'entreprise. Alors, le drame de ce schéma, c'est qu'il y a une date malheureuse, 1869. 1869 est pour moi, dans l'histoire sociale, beaucoup plus important que la Commune. 1869, c'est 2 ans après 1867. 1867, c'est l'exposition universelle dont le commissaire général est Frédéric Le Play. Et qu'est-ce qu'invente Frédéric Le Play dans cette exposition universelle? Le prix de la paix sociale. Et donc c'était, il y avait un bâtiment ou des lieux dans les bâtiments qui étaient où les entreprises venaient exposer ce qu'elles faisaient pour leurs ouvriers. Les logements, les institutions, patronales. Et alors, le prix a été remis à Krupp. Premier prix des institutions patronales, Krupp. Mais le prix de l'or de prix à Schneider, au Creusot. C'est pas parce que Schneider ne pouvait pas être primé parce que c'est lui qui fixe la norme. Et le problème, c'est que 2 ans après, 1869, donc, le Creusot est le siège d'une grève dramatique. Et cette grève dramatique va sonner le tocsin de l'institution patronale, en tout cas dans cette forme-là, puisque au lieu de produire la paix sociale, ça produit la guerre. Il faut donc réformer les institutions patronales. Et ça va être le grand travail de la Troisième République, avec un autre ingénieur des mines, enfin je crois qu'il est ingénieur des mines, je ne suis pas sûr, Émile Cheysson, qui va prendre que Eugène Schneider va appeler au Creusot. Et la première chose, à nouveau c'est une question amusante pour vous, La première chose que va faire Émile Cheysson lorsqu'il arrive au Creusot, il n'y restera pas parce que sa femme ne supportait pas l'odeur des usines. Émile Cheysson, la première chose qu'il va faire, il va transférer la caisse des retraites à une compagnie d'assurance. Et c'est très intéressant du point de vue de quand vous parlez de la propriété de l'entreprise, etc., et des choix, est-ce que ça doit rester interne ou est-ce qu'il faut l'externaliser, etc. Bien. Alors, dans cette conjoncture de la fin du 19e, apparaît une troisième configuration, pour moi. Cette troisième configuration est très différente de la précédente. D'ailleurs, elle ne mérite plus le nom de responsabilité, même si la notion de responsabilité, même si la question de la responsabilité est toujours présente. Cette configuration a, mérite le titre de solidarité. On peut dire, c'est la victoire des fictions. La première grande fiction, c'est-à-dire qu'on va construire des régimes d'obligations, on va construire une vision de la société à partir de quelques fictions. La première, c'est celle de risque qu'on va prendre aux assureurs. Enfin, qu'on va prendre oui, essentiellement aux assureurs. Mais c'est le rêve, l'imaginaire que la société, ce n'est jamais qu'un instrument de protection contre les risques et qu'on pourrait remplacer l'impôt par des cotisations d'assurance a été formulé en 1852 par un certain Émile de Girardin dans un livre qui s'appelle « Politique universelle ». Enfin, et il avait formulé le projet que l'identification nationale devrait être le numéro de sécurité sociale. Bien, donc le risque, l'autre catégorie, l'autre fiction qui apparaît dans cette conjoncture, c'est l'entreprise. Cette entreprise, on va lui donner une existence, et ça c'est l'assurance qui va le permettre, à travers le problème des accidents du travail, et l'invention d'un assureur, je ne sais plus, la compagnie d'assurance, qui s'appelle Hippolyte Marestin, qui invente l'assurance de groupe, et qui va dire qu'en réalité, pour indemniser les accidents du travail, on n'a pas besoin de passer par chacun et d'examiner son comportement. En réalité, les accidents du travail sont une fonction du nombre d'heures travaillées. Et cette fonction, c'est une fonction qui désigne une fiction, donc très utile, qui est l'entreprise. Puis vous avez une troisième fiction, évidemment, qui est la société. Mais les notions, alors, ici, la notion de responsabilité change un peu de nature, puisque la grande, cette vision dont le père est pasteur. Ce qui va tout changer, c'est Pasteur et la découverte de la contagion. Car ça va permettre de sortir d'un modèle où la responsabilité juridique, en tout cas, n'est pas de ne pas nuire à autrui. Mais le problème, c'est que sans que je nuise à autrui, par mon comportement, je peux lui porter tort. Par exemple, si je ne me vaccine pas. Par exemple, si je crache dans le métro. Et alors apparaît à ce moment-là l'idée qu'il est justifié de définir des obligations, non pas de ne pas faire, ne pas nuire, mais des obligations de faire. Et là, toute la configuration de la responsabilité va changer. Alors, autour de ces notions, donc on va avoir, je vais extrêmement vite, l'idée, c'est qu'en réalité, et là ça change vraiment configuration est complètement bouleversée parce que, on va dire, ce qui arrive à chacun n'est plus son affaire. C'est d'abord un événement de la société. C'est la société dont on peut observer, c'est les fameuses études de Quetelet, chaque année, une société paye un budget régulier au crime. Donc, c'est pas un problème simplement d'individu. Il y a une régularité sociale, il y a une consistance sociale de certains événements. Le nombre d'accidents du travail, c'est pas dû à la prudence ou l'imprudence des ouvriers. C'est dû, encore une fois, c'est une fonction de nombre d'heures, c'est peut-être une fonction de salaire, etc. Et on va modifier donc les attributions. Et à partir de là, on va penser par rapport aux événements qui peuvent arriver à chacun. On va les penser non pas comme étant dus à son propre fait, mais en réalité, chacun, en fonction de sa place dans la société, se voit attribuer un certain nombre de risques. Et le problème du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette répartition des risques ne soit pas injuste. D'où la fameuse thèse de Léon Bourgeois du quasi-contrat. Le quasi-contrat, c'est on va faire comme si, dans la société, il y avait un, on s'était passé l'accord pour re-répartir les risques. Alors ça peut s'appeler égalité des chances. Ça peut s'appeler, évidemment, système d'assurance, où on va faire, système de compensation des accidents du travail, et où on va penser de telle manière que, eh bien, ce qui arrive à chacun, finalement, en tout cas financièrement, ne soit pas porté par lui. Dans la mesure, alors évidemment, il y aura toujours l'exception de certaines responsabilités, s'il est ivrogne, etc., si on peut dire que c'est lui la seule cause, etc. Mais comme vous savez, les juristes le savent, dans l'histoire du droit de la responsabilité, ces causes d'exonération de responsabilité deviennent de plus en plus réduites. C'est pour moi un des phénomènes les plus intéressants qu'on peut étudier. Au 19e, quand vous plaidez la responsabilité, quand vous regardez la jurisprudence, il y a énormément de place qui est donnée au cas fortuit et à la force majeure. C'est-à-dire qu'on considère que beaucoup d'événements ne sont pas attribuables ni à l'un ni à l'autre. Ils relèvent du sort. Ils relèvent de... oui, c'est ça, du sort. Eh bien, ce qui est caractéristique de la configuration à partir de la fin du 19e dans la responsabilité, c'est que la force majeure disparaît. Il n'y a plus de force majeure. Il n'y a plus de cas fortuit. Tout est imputable à quelqu'un. Bien. Donc voilà cette configuration de la responsabilité, donc qui est liée à l'idée d'assurance, de risque, de compensation, est extrêmement importante parce que c'est une configuration de là on retrouve. Alors, c'est ambigu ce que je vais dire. On retrouve le rêve de la démocratie, car dans les fictions assurantielles, dans les fictions de risque, les mutualisations n'exclut personne. Et c'est la fameuse parabole de Quetelet sur l'homme moyen. La différence qu'il y a entre l'un et l'autre, entre un homme et une femme à la limite, entre un grand et un petit, un noir et un blanc, ce ne sont jamais que des accidents. En réalité, et c'est ce que Castel formulera avec nostalgie il y a quelques années, tout cela crée des semblables. Et cette idée qu'on partage, que quelles que soient nos différences, nous sommes communs sur l'essentiel, est une, pour moi, donc va avec cette idée de risque, va avec l'idée d'assurance, va avec l'idée de société assurantielle, et est une des bases de la démocratie. C'est quelque chose dont il faut certainement se souvenir aujourd'hui. Alors, société assurantielle, alors je pense que alors je dirais, là certainement on va me contester, parce que là je fais une plage de temps qui va être énorme. Ça va donc, toute cette construction, l'imaginaire de cette construction est donné, et les premières réalisations dans les années 1880, en particulier dans les congrès, au moment des expositions universelles, dans les congrès sur les accidents du travail. Si vous lisez ces textes, vous verrez que qu'on soit allemand, qu'on soit italien, français ou anglais ou américain, on pense tous pareil. Simplement, on dit, dans cette pensée de l'assurance, comment on va se démarquer? Comment je vais prendre l'avantage sur l'autre? Donc quand on dit que la sécurité sociale naît après 45, pour moi c'est totalement faux. L'idée de ce projet est née à la fin du 19e. Chaque État va chercher à trouver sa différence qui lui donnerait un avantage concurrentiel. Alors les Allemands ont un problème particulier, c'est la constitution de l'Empire, c'est pour ça qu'ils constitueront leur système d'assurance sous la forme centralisée qui est la forme bismarckienne. Les Français, par rapport à ça, dans une espèce de belle union libérale et de gauche, va dire, nous, notre panacée, c'est la mutualité. Et c'est de là que, je pense que c'est à ce moment-là, enfin c'est là et un peu avant d'ailleurs, que il y a cette espèce d'amour français de la mutualité. Bien. Donc, tout ça va donner un développement institution patronale. Ça va se transformer en assurance sociale. Ça va se transformer en sécurité sociale. Si on fait le bilan aujourd'hui, ce que j'ai eu l'occasion d'essayer de faire pour France 2025 à l'arrivée de Sarkozy en 2007, eh bien, on m'avait demandé de présider le groupe sur l'avenir des protections. Et j'avais demandé, est-ce qu'on peut avoir le budget des protections en France? Alors il y a un statisticien qui a apporté un truc. Non, ça n'existe pas, malheureusement. Mais c'est évidemment faux d'un point de vue, si on rentre dans le détail. Mais c'est intéressant, en grande masse. Si on fait le camembert des protections, on va s'apercevoir que sur un budget de 100, la police et l'armée, c'est 5. Les problèmes qui sont liés à l'aménagement du territoire, à l'environnement, c'est 5, ça fait 10. Le reste, c'est les budgets d'assurance. Ça veut dire que dans une société comme la nôtre, les protections sont fondamentalement des protections financières. Dans les budgets d'assurance, moi, dans ma vision, l'assurance sociale, la sécurité sociale est une forme d'assurance qui est évidemment la plus dominante chez nous. Mais ce qui caractérise nos sociétés, c'est pour ça que j'ai le droit de parler de société assurantielle. Maintenant, dans cette affaire, il y a un problème, il y a un sacrifice, il y a un monstre, le contrat de travail. Parce que, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on va légaliser la situation de dépendance du salarié, qui par rapport à l'idéal de la Révolution est inimaginable. On va consacrer sa dépendance, on va consacrer son irresponsabilité, sous le thème, donc, du rapport. Il doit accepter sa subordination, mais cette subordination est juridiquement tolérée parce qu'elle est une protection. Et elle est tolérée, à ce moment-là, ça va être le travail à la fois de la loi et du juge, pour en éviter les excès. Mais en même temps, l'idée qu'un rapport juridique dans le pays des droits de l'homme puisse consacrer la dépendance d'un individu par un autre, c'est tout de même singulier. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que dans la lignée des accidents du travail, on va trouver que c'est vraiment formidable, ces instruments qui permettent de socialiser les risques, parce qu'ils ont comme intérêt de permettre l'innovation. Vous faites des autos. Qui va porter les risques des accidents d'auto? Si vous faites des systèmes d'assurance, eh bien, vous allez faire partager le risque par tout le monde. Et vous n'en faites pas porter la charge, sauf malheureusement celui qui est victime physique, mais par chacun. Et on va raisonner systématiquement comme ça. On peut faire des centrales nucléaires si on les assure. C'est-à-dire si on est capable de compenser, si on est capable de réduire le risque au moment où on les fabrique, et s'il doit y avoir un accident, il y aura une compensation financière. Tout risque acceptable est un risque indemnisable. Le principe, c'est que vous pouvez indemniser. Mais en même temps que fait ce grand bargaining, se développe toute une série de situations construites sur le même modèle qui concernent... mais je pense que ce qui est caractéristique, fondamentalement, c'est l'idée... Depuis 1840, comment voit-on la société, en tout cas juridiquement? On la voit non pas sous le prisme de l'égalité, mais sous le prisme des asymétries et des dépendances. Qui dépend de qui? Et la dépendance est le lien de responsabilité. À la fin du 20e, il y a un débat dans le milieu patronal. Quand on voit se développer toutes ces... Donc, puisque quand on prend tous ces mécanismes de dépendance, on va dire, par exemple, le malade est sous la dépendance du médecin. Le médecin décide des traitements, le médecin a l'information, eh bien, le malade devrait pouvoir être indemnisé. On va dire ça pour toutes les situations. Alors, le problème des patrons, à ce moment-là, et des assureurs, d'ailleurs, ça a été de dire, mais l'inflation des responsabilités... comme une grande terreur. Bien, ça c'était mon, je ne sais plus combien, troisième modèle, troisième configuration. Il y a une quatrième configuration, je vais passer vite sur cette configuration, là où elle est très proche de nous, c'est évidemment la configuration néolibérale. C'est la configuration de la mondialisation. Ça, c'est une autre, c'est un autre univers. Et là, je pense que c'est... Alors là, on désocialise, on dénationalise. C'est une configuration où le modèle est... Mais alors, c'est un modèle complètement édulcoré. C'est, on revient à l'idée d'une responsabilité individuelle. Alors, vous avez des jeux qui sont un peu douteux, comme par exemple le fait que le chômage est renvoyé au chômeur. Il n'est pas employable. Et l'employabilité est un problème du chômeur. Ce n'est pas un problème de la société. Et bon, comme ça, c'est systématique. Alors, tout ça a été beaucoup étudié. Et plus peut-être qu'une conjoncture de la responsabilité, enfin, c'est une conjoncture de la responsabilité, c'est aussi une conjoncture de la liberté. Fondamentalement, c'est un moment extraordinaire de libération. Et l'ouverture des frontières, la victoire contre les pays de l'Est, etc., tout ça va donner une conjoncture gigantesque de la liberté. Et qui va... Alors, vous allez me dire, tout ça fait beaucoup de dégâts. Mais, à ce moment-là, il me semble qu'il y a un argument qui va servir à justifier, d'une certaine manière, ces dégâts, c'est l'argument optimiste. Avec la mondialisation, la privatisation, etc., Leibniz fait retour. Et là où on dit, vous connaissez l'optimisme leibnizien, ça consiste, c'est une théodicée qui consiste à dire, mais... Vous plaignez de tel événement, de tel malheur qui vous arrive. Ah, mais comprenez comment il s'inscrit dans le plan de la Providence. Et un mal ici peut être compensé par un plus grand bien là-bas. Ben, si vous regardez le discours des économistes autour de la mondialisation, c'est vraiment des optimistes. Et l'optimisme a pris fin aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ne supportent plus, n'acceptent plus qu'on leur dise « Écoutez, ah, c'est formidable. Vous êtes au chômage, mais ça fait, on sort de la pauvreté en Inde. » Voilà les compensations de la mondialisation. Mais aujourd'hui, le populisme montre que ce raisonnement, c'est comme après le tremblement de terre de Lisbonne, nouvelle manière pour l'optimisme de tomber. Bien, je ne vais pas développer ça. Ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui se passe maintenant, parce que nous en sommes tous ici les acteurs. Le problème de la conjoncture, de la responsabilité de cette... Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où, pour sortir des crises financières, sociales, populistes, politiques, etc., la réponse, c'est appel à la responsabilité. Et on va nous... Vous pouvez aller sur tous les grands forums. On parle, évidemment, que de responsabilité. Et quand... Je pense que quand on parle de responsabilité, d'investissement responsable, quand on parle de RSE, les acteurs, les agents économiques ont parfaitement conscience qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils ont maintenant, ça ne veut pas dire que s'ils ont un rôle à jouer, s'ils se sentent responsables, quel est le modèle de la responsabilité dans lequel on doit rentrer. Et là, je pense que des débats comme ici font partie du moment de construction de ce nouveau moment responsable. Moi, je l'inscrirais dans cette conjoncture où l'absence, enfin, la taille des entreprises, l'absence des États, les problèmes auxquels nous sommes confrontés nous imposent à ceux qui exercent les pouvoirs l'exigence de responsabilité. Maintenant, quel contenu donner à cette exigence de responsabilité ? Chacun peut y répondre. Chacun, pour le moment, il peut y répondre d'une manière distincte. Et chacun y répond, je pense, dans le cadre d'un débat. Les discussions sur la loi Pacte font partie du débat sur comment, qu'est-ce que ça veut dire qu'un modèle économique qui serait à nouveau basé sur la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les institutions de la responsabilité dans la conjoncture qui est la nôtre ? la conjoncture de ces grandes entreprises mondialisées avec un pouvoir supérieur aux États, des États absents, des États qui se reportent sur les entreprises pour justement traiter les problèmes économiques, sociaux ou écologiques. Alors, je pense que c'est ce que les cénacles, les discussions comme ici, pour moi, sont très intéressantes parce que c'est un travail, cette construction des institutions de la responsabilité ou de la vision de la responsabilité dans le nouveau contexte, c'est ce qui se construit à travers ces échanges qui ne suppose pas du tout que chacun ait déjà la solution. Pourquoi on n'a pas la solution? Alors, je vais vous donner quelques-unes de mes interrogations. Et donc, le comité Médicis vient de naître, et peut-être qu'il vous donnera des réponses sur son site dans un autre temps. Alors, quels sont les problèmes? Pour moi, il y a un problème, il y a plusieurs, je les donne un peu, c'est un peu dans le désordre, il y a plusieurs problèmes. Il y a un premier problème, c'est un problème de valeur. C'est que nous sommes à un moment de retournement des valeurs, considérable. Et évidemment, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce que c'est qu'une civilisation, ou plus exactement, ce que la société industrielle nous avait dit être une civilisation, nous considérons aujourd'hui que ce n'est pas soutenable. Le problème, ce n'est pas comment améliorer cette civilisation, ce n'est pas comment la faire mieux partager. Le problème, c'est d'en changer dans un contexte qui impose... il faut repenser la civilisation. Et on ne peut pas la penser en ayant la vision, on ne la pense pas et on ne peut pas la penser en fonction d'une utopie. Les utopies sont interdites. Au comité Médicis, on avait reçu un des patrons italiens du développement durable, un statisticien, Enrico Giovannini. Il nous avait expliqué la logique des ODD, des objectifs de développement durable. Nous avions dit, c'est pas du tout fait par rapport à une vision de l'avenir. C'est fait par rapport à une vision de la catastrophe qu'on doit éviter. Alors, je trouve ça fort intéressant. Notre avenir, nous pensons l'avenir par rapport à la catastrophe à éviter. Alors ça va plaire à Armand, parce que c'est le principe de précaution qui rapplique. Bon, on marche à reculons. Nous voyons l'avenir à reculons. Alors, je ne suis pas sûr que marcher à reculons soit la meilleure manière d'éviter les catastrophes. Mais c'est très intéressant. Et donc, on pense l'avenir, non pas par rapport à... On peut, bien sûr, il peut y avoir des utopies, mais on le pense comme transition. On sait qu'on ne peut pas rester comme on était. On sait qu'on voit qu'il y a une floraison de propositions de régimes de valeurs. Il faut supprimer la viande, il faut changer complètement l'agriculture, tout ce qui est chimique est mauvais, etc. Il faut voir la vitesse avec laquelle le bien s'est transformé en mal. Tout ce dans quoi on avait désigné ce qui était facteur de bien et se trouve progressivement disqualifié et considéré en mal. Et par rapport à ça, donc, on pense le mieux à faire, c'est de gérer des transitions. Bien. La deuxième, c'est un gros problème. Donc, encore une fois, on n'est pas dans une civilisation qu'il faudrait améliorer, il faut en inventer une. Et il faudrait l'inventer de telle manière. Alors, évidemment, ici, il va se poser un deuxième problème. C'est pour la France, évidemment, a éclaté avec la question des gilets jaunes. C'est que ces transitions, en réalité écologiques, leur vérité est sociale. Et se pose le problème de savoir, dans les valeurs, c'est comment nous allons penser l'articulation, ce qui a toujours été difficile, entre l'écologique et le social. Parce que un dispositif ou des exigences de responsabilité écologique qui aboutissent à des impossibilités ou à des impasses sociales, ça ne marche pas. Maintenant, si on dit il faut que ça soit socialement, si vous demandez aux gens seulement ce qui est socialement possible pour eux, il est clair que ça risque d'être un peu, freinant. Vous avez un troisième problème qui est, est-ce qu'on peut penser ces questions-là d'une manière universelle? Est-ce qu'en réalité, on n'est pas confronté à la diversité à la fois des entreprises et la diversité des territoires? Est-ce que pour penser ces transitions, précisément, on ne doit pas prendre en compte, on n'est pas nécessairement dans une vision qui doit être relative à ces situations et qui doivent être adaptées à ces situations? Vous avez une quatrième difficulté, c'est que les responsabilités que nous nous donnons, en particulier à travers le climat, sont des responsabilités démesurées. Il y a une espèce d'hubris de la responsabilité, puisque désormais nous nous considérons comme responsables du climat. Imaginez qu'on réussisse à réduire à 2% l'émission des gaz à effet de serre. Cela voudra dire que nous avons la maîtrise, une certaine maîtrise du climat. Et le problème qui va se poser à ce moment-là, ça va être le choix du bon climat. Parce qu'il n'est pas du tout dit que celui que nous avons, celui dont nous héritons, finalement, il est bon pour certains. Il n'est pas, vous savez, pour la France, qui est le pays tempéré par excellence, mais pas vraiment pour un autre. Et à ce moment-là, s'ouvre cet univers de la maîtrise, ouvre sur la question, mais pour comment on va choisir le bon? Désormais, il sera de notre ressort. Eh bien, écoutez, et là, cette responsabilité, ces responsabilités démesurées, donc sont exactement l'inverse de la situation de l'homme au 19e. La situation de l'homme au 19e est un petit élément dans un univers qui le domine. Et il faut qu'il se débrouille pour vivre le mieux possible dans cette situation-là. Nous considérons que nous avons la maîtrise, que nous sommes en situation de maîtrise de tout. Alors ça laisse des responsabilités démesurées. Et là, on retrouve le Perionas. Le Perionas, c'est le théoricien du pouvoir. C'est le théoricien de l'excès de pouvoir. Il dit aujourd'hui, le rapport que nous avons avec la nature est un rapport où le pouvoir que nous avons non seulement nous place hors de la nature, mais est tel que le savoir dont nous disposons n'est pas à la mesure du pouvoir que nous exerçons. D'où l'idée, il faut réduire le pouvoir. Et nous devons être frugaux. Il faut réduire le pouvoir que nous exerçons. Et ça donne cette figure d'envisager, on se trouve être responsable, est-ce que c'est envisager toutes les conséquences de nos actions à l'infini? Est-ce que lorsque un riverain d'une usine va interpeller l'entreprise, elle doit l'interpeller sur les conséquences infinies possibles de ce qu'elle fait? Car ce qu'elle fait va avoir des conséquences infinies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la pensée sauvage de Lévi-Strauss s'ouvre sur cette question des causalités infinies et du problème de la responsabilité. La responsabilité, ça consiste à interrompre le jeu des causalités en donnant un moment un point d'attribution. Bien, voilà quelques difficultés auxquelles il me semble nous sommes confrontés. Alors, par rapport à ça, donc, moi je trouve, et il me semble parfaitement sain, que dans cette nouvelle configuration de la responsabilité, dans cette configuration où nous avons tous à redéfinir, à définir ce que nous voulons, ce que nous pensons quand nous nous disons responsables, lorsque nous sommes face à notre exigence de responsabilité. La question, pour moi, est la recherche, cette question-là, les entreprises se la posent en particulier par la réaction de leurs clients. Leurs clients leur demandent. Leurs clients ne veulent plus. Alors, Mercedes Serra raconte des choses qui sont assez amusantes aujourd'hui, comme par exemple le fait que, c'est des enquêtes mondiales, elle raconte comment soit 80% de la population considère que le monde va dans la mauvaise direction. Les mêmes gens considèrent qu'il est de leur responsabilité que ça aille mieux. Donc, ils ont un engagement. Ils considèrent en même temps qu'ils n'ont rien à attendre des politiques. Ils considèrent encore que ce qui peut changer les choses, c'est une nouvelle relation avec les entreprises. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant, cette idée que, en réalité, l'idée, cette configuration, est une configuration de négociation. Je vous rappelle que la configuration de la solidarité était déjà, c'est à ce moment-là qu'a été pensée les grandes institutions de la négociation permanente entre les parties prenantes, entre les syndicats, les patrons, etc. Le paritarisme, ça date, c'est des institutions de la solidarité. Bien. Alors, moi, je pense que ça, cette dimension-là, donc, de la recherche d'un contrat, donc, qui passe par l'expression de tout le monde. Maintenant, je ne souhaite pas, je l'ai suffisamment dit, que nous abordions la civilisation de manière future, ou les problèmes de civilisation auxquels nous sommes confrontés, dans une vision précautionniste, c'est-à-dire dans une vision conservatrice, parce que le danger, c'est le danger de la conservation. Et au nom de tous les dégâts qu'on pourrait produire à l'avenir, et c'est ce qui donne la précaution. Moi, je préfère une autre figure. Je préfère la prudence. Je me réfère à Aristote. Et je pense qu'on pourrait utilement réutiliser Aristote. Qu'est-ce que dit Aristote ? Quelle est la tâche ? Quel est le devoir, la mission, le bérouf de l'homme sur Terre ? C'est de porter le monde à une plus grande perfection. C'est la prudence. La prudence, ça ne consiste pas... Vous voyez bien, ce n'est pas du tout la même attitude que la conservation. Le problème, c'est que notre devoir est de prendre des risques. Notre devoir est d'aller vers un meilleur. Ce meilleur, il est possible grâce à la délibération, précisément. La vertu ou la technique qui accompagne la prudence, c'est la délibération. Donc tout ça, me semble-t-il, est peut-être intéressant et utilisable aujourd'hui. Et avec une catégorie, une valeur, qui me semble très intéressante à solliciter, à reconstruire, à mobiliser aujourd'hui, qui est la notion de juste. Le problème est de savoir, dans ces incertitudes, dans le fait que nous, j'espère, que nous soyons encore tournés vers l'avenir, et non pas recroquevillés dans le sauvetage du passé, la question est de savoir, qu'est-ce qui est juste ? Comment définir ce qui est juste, adapté, mesuré, convenable. Voilà. C'est les questions du comité Médicis.